En 2015, pour les 20 ans du parc, une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteurs du territoire.
Saint-Sever-du-Moustier, la construction insolite, le musée des arts buissonniers, la Bérézina. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais connaissez-vous vraiment celles et ceux qui sont à l'origine du foisonnement culturel dans ce petit village sud-aveyronnais ? Réponse avec Paul Lemettey, coordinateur des Nouveaux Troubadours, qui nous guide au fil des lieux et réalisations emblématiques de l'association.
Ouais, c'est un ancien hôtel qui était tombé en ruine, hein, qui ne servait plus depuis la guerre de 14. Et l'association l'a récupéré dans les années 80, en 87 précisément, et l'a restauré. Donc les premières années, ça a été beaucoup des années de chantier. Mais le but et l'idée, c'était de créer un centre culturel dans le village de Saint-Sever. Et donc voilà, donc maintenant c'est en place, c'est restauré et ça accueille des salles d'exposition, un musée, des logements pour les artistes qui viennent en résidence et les stagiaires. Donc là on est en bas, on est dans la salle d'exposition, les premières salles qui ont été aménagées et ces anciennes caves de l'hôtel. Donc c'est des murs en pierre, en pierre apparente. Et avec une certaine ambiance, quoi. Il y a une salle voûtée, il y a des vieilles poutres. Et ce cadre s'adapte bien aux œuvres qu'on présente ici, puisque nous, on est passionnés et on présente ici des expositions depuis une vingtaine d'années maintenant, des expositions apparentées à l'art brut, donc des œuvres d'art brut, d'art singulier, d'art populaire, des choses comme ça. C'est des œuvres qui sont faites en marge des institutions, en marge des circuits traditionnels de l'art. Et les créateurs, les gens qui font ça, ils font souvent ça dans leur coin, en récupérant pas mal de matériaux différents. Et ça, je trouve que le lieu se prête bien à ça. Voilà, donc, voilà pour le premier étage. Après, le deuxième étage est plus récent. On a aménagé un espace dédié à un artiste qui s'appelle Paul Amar, qui est un vieux monsieur maintenant, il a 95 ans, mais ça fait une quarantaine d'années qu'il crée des sculptures en coquillages. Donc il récupère des coquillages, il les assemble, il les colle, il les peint. Il crée une œuvre très unique, très, très kitsch, très colorée et assez drôle. Et il y a 3 ans maintenant, il nous a proposé de nous occuper de son œuvre et de son travail. Il nous a confié toutes ses œuvres, il y en a énormément. Et on lui a ouvert un espace permanent, donc il y a 2 nouvelles salles d'exposition maintenant au-dessus des premières salles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on s'occupe aussi de ses œuvres, c'est-à-dire qu'on fait des expositions de son travail un peu partout en France, en partenariat avec des musées, des galeries, des centres d'art.
La construction insolite.
Ça se mérite, parce qu'il faut monter une ruelle très raide pour y arriver. Et donc souvent les gens sont un peu essoufflés quand ils arrivent là-haut. C'est un projet qu'on mène depuis 12 ans et qui est né après qu'on ait restauré le bâtiment principal sur la place du village. On avait fait toute une restauration en organisant des chantiers participatif et on s'est dit maintenant qu'on a restauré quelque chose, on va construire quelque chose et on savait pas du tout ce que ça allait donner, hein. Mais maintenant c'est devenu assez grand. L'idée c'était de faire une construction qui n'ait pas de but utile, uniquement un but artistique, de s'amuser quoi. S'amuser en construisant.
La construction insolite.
Oui, voilà, bon, on ne lui a pas trouvé d'autre nom, on a appelé ça comme ça au départ, et puis c'est resté comme ça. Donc on a tout construit, il n'y avait rien au départ. Toutes les pierres qu'on voit là, elles ont été montées, et puis assemblées au fur et à mesure des années. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens différents qui ont participé. Je vais prendre un peu mon souffle.
Hop là!
Des jeunes qui ont fait ça, ils ont appelé ça un canafès.
Donc ils ont moulé leur derrière dans le ciment.
Je m'appelle Paul Lemettet, et je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, à Saint-Sever. Au départ, pour faire mon service militaire. À l'époque, quand on ne voulait pas faire l'armée, on était objecteur de conscience. Et quand on était objecteur de conscience, on pouvait aller, à la place de faire le service militaire, on pouvait aller travailler dans des associations. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé ici en 94. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça dans l'association. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus faire leur objection de conscience dans l'association. Et il y en a beaucoup qui sont restés au village. Donc ça a amené des gens au village et dans l'association. Ça a amené des idées. Et c'est ce qui a permis le développement de plein d'activités différentes ici. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis arrivé ici, on faisait beaucoup d'encadrement de chantiers, mais aussi, ça a été le moment où il y avait les salles d'exposition qui étaient aménagées, qui venaient d'être inaugurées. Et j'ai commencé à m'occuper d'organiser des expositions d'artistes à Saint-Sever. Donc beaucoup des gens que je connaissais un petit peu, que j'invitais à venir ici. Voilà comment ça a démarré pour moi ici.
Tu faisais quoi avant de venir à Saint-Sever ?
Bah avant, j'étais en région parisienne. Je m'occupais d'un squat artistique à Malakoff. C'est une aventure qui n'avait pas duré très longtemps. Hein, c'était un petit peu difficile de tenir. Quoi. Mais il y avait une soixantaine d'artistes dans un lieu comme ça qu'on avait récupéré. Et le lieu devait être fermé. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et il y avait en même temps l'envie de quitter la région parisienne. L'envie d'aller dans un endroit avec un peu plus de temps et de calme pour faire des choses, justement. À l'époque, mon projet, c'était plutôt de faire de la musique et du cinéma. J'étais avec un copain et on s'est dit bah, pourquoi pas profiter de cette obligation de service national à faire pour aller justement voir ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est des analyses qu'on fait après coup. Hein. Sur le moment, moi, j'ai vécu les choses et puis ça s'est passé comme ça. Mais je pense qu'il m'a plu, c'est une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment tout créer ici, créer des projets et faire développer ces projets un peu comme on l'entendait. Il y avait, c'est une association, donc les Nouveaux Troubadours, qui est très qui a su passer la main aux gens. C'est-à-dire que les membres fondateurs ne sont pas restés tout le temps à diriger les choses. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, on m'a laissé vraiment carte blanche, on m'a laissé m'occuper de choses, bah, comme l'organisation d'expositions. Et je pense que c'est important. Après, il y a un tas d'autres choses. Il y a la vie ici. C'est vrai qu'il y avait l'envie de vivre, plutôt vivre à la campagne. Et puis, j'ai pu acheter une maison, m'installer ici. Maintenant, j'ai des enfants dans le village, quoi. Il y a toute une vie qui s'est construite ici.
Pourquoi Saint-Sever du Moustier ?
Bah, c'est là, je pense, un peu le hasard. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que on connaissait des gens ici. Je dis on parce qu'on est arrivé à deux. On connaissait. Moi, j'étais déjà venu quelques années avant en vacances ici. Et il y avait une famille qui s'était installée, un des membres fondateurs de l'association, Gabriel Fourier, qu'on connaissait par des amis de mes parents. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et on savait qu'il y avait ce projet de l'association, et qui recherchait des volontaires pour faire le service. Donc ça s'est fait comme ça.
On est au milieu de cette construction insolite, avec toutes sortes de choses très différentes tout autour de nous. C'est de l'art contemporain, on pourrait dire. Art brut, tu parles, et tu dis aussi art populaire. Ça veut dire quoi tout ça ?
L'art brut, c'est les créations qui sont faites par des gens qui n'ont pas de culture artistique et qui n'ont pas appris, qui n'ont pas fait de cours d'art ou de cours de dessin, de peinture, de choses comme ça. Ils avaient envie de faire quelque chose, ils l'ont fait. Souvent, donc, c'est une création complètement libre. La personne ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire, si ça va suivre une mode ou un style. Elle a envie d'exprimer quelque chose et elle le fait. Elle le fait souvent avec les moyens du bord, en récupérant ce qu'elle a sous la main. Et donc aussi en inventant des techniques. Donc l'art brut, c'est quelque chose qui innove aussi dans les techniques et qui est très varié. Mais ce qu'on appelle de l'art brut, c'est très précis. C'est fait vraiment... ça a été défini par Jean Dubuffet à une époque. Il a créé toute une collection d'art brut. Et on ne peut pas appeler art brut n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment conditionné à l'histoire de la personne, vraiment quelqu'un qui est un peu en marge, qui peut être un peu coupé du monde dans son coin, l'art des marginaux, même aussi des gens qui ont des problèmes psychiatriques des fois. L'art singulier, c'est un peu ces gens qui ont une démarche artistique, mais qui essayent de retrouver cet état pur et originel de la création d'art brut, c'est-à-dire d'oublier un peu toutes les intentions et de créer spontanément. Donc on appelle ça de l'art singulier. C'est aussi des gens qui sont inclassables, qui ont du mal à rentrer dans les cases de l'art contemporain et qui trouvaient à une époque pas du tout d'endroit pour exposer. Hein, puisque tous ces arts-là étaient vraiment complètement déconsidérés par les instances culturelles. Le ministère de la Culture, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a ne serait-ce que même 5 ans, nous disait: ce que vous présentez ici, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de notre ressort. Alors ça change en ce moment parce qu'il y a un attrait pour ça, et donc maintenant on arrive à voir dans les musées des œuvres d'art brut qui sont présentées. Pourquoi ? Parce que ces œuvres, elles sont d'une force incroyable, et on s'aperçoit que des gens qui ont créé des choses de manière spontanée et vraiment simple arrivent des fois directement à proposer une œuvre qui est aussi forte que quelqu'un qui a un grand maître de l'art ou de la peinture. Donc. Après, on parle d'art populaire. Alors, l'art populaire, c'est des gens qui ont une technique. Par exemple, quelqu'un qui est ébéniste ou qui travaille le métal et qui, tout d'un coup, au lieu de faire ce qu'il fait habituellement, un travail artisanal, il a envie d'exprimer quelque chose de personnel. Et il va se mettre à créer des choses. Alors il y en a beaucoup, hein, quand on se balade en France, on voit plein de gens qui font des choses au bord de la route ou dans leur jardin. Et là-dedans, il y a des choses qui sont très très intéressantes, quoi. Il y a des gens qui ont vraiment, en faisant ça, qui développent une expression personnelle et superbe qui est digne d'intérêt et qui peut être exposée. Donc voilà, on s'intéresse à ça aussi. Et là-dedans, il y a aussi ce qu'on appelle les bâtisseurs, c'est-à-dire des gens qui construisent. Le plus connu, c'est quelqu'un qui s'appelle le facteur cheval, qui a construit le palais idéal du facteur cheval. C'est dans la Drôme. C'est tout vraiment une construction incroyable. Ça a maintenant plus d'un siècle. Et ce bâtiment a été classé monument historique. Donc c'est une première, parce que ça veut dire qu'on reconnaît que quelqu'un sans éducation, sans technique, a bâti quelque chose qui est maintenant reconnu monument historique. Bon, j'en parle parce que c'est un détail intéressant à souligner. Et donc des gens qui construisent comme ça, il y en a beaucoup. Quand on commence à s'intéresser à ça, partout en France, on voit des gens qui construisent des choses sur leur maison, dans leur jardin, vraiment des choses incroyables. Et nous, on se passionne pour ça. Et c'est dans cette idée-là qu'on s'est dit, nous, on va faire pareil, on va construire quelque chose. Mais comme on est une association, on est un collectif, on va le faire collectivement. Et c'est comme ça qu'on a démarré la construction insolite. Donc au départ, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. C'est vraiment, vraiment sans prétention. On se disait, on va s'amuser en construisant. Et puis il y avait une personne qui fait partie de l'association, qui était maçon, qui s'appelle Pierre Camilli, et qui s'est beaucoup investi dedans et qui a encadré depuis le début les séjours et les chantiers qu'on organise ici. Et ça a pris de l'importance parce que ça plaît beaucoup aux gens qui participent.
Et justement, donc, tu parles de ces jours. Donc, parmi les activités des nouveaux troubadours, il y a ces chantiers, ces stages. Est-ce que tu peux en dire un mot ?
Oui, donc avant de commencer la construction insolite, l'association organisait d'un côté des chantiers de jeunes sur la restauration du bâtiment de l'association, et puis à côté des colonies de vacances. Depuis toujours, depuis les années 80, l'association organise des colonies de vacances autour de la nature, du spectacle, des choses comme ça. Et quand on a lancé ce projet de construction insolite, on s'est dit on va mélanger les deux et on va créer des chantiers artistiques, mais qui vont démarrer pour les enfants aussi. Donc on a mélangé les colonies de vacances et les chantiers. Et donc maintenant, ça donne tout un programme de séjours, de chantiers et de stages. Donc ça peut être pour des adolescents, ils peuvent venir ici en séjour pendant 2 semaines et participer à la construction. On leur propose plusieurs ateliers. Ils peuvent faire de la construction en pierre, de la sculpture. Ils peuvent faire de la forge. On a tout un atelier forge maintenant depuis quelques années de ferronnerie d'art. On peut faire de la mosaïque. Il y a beaucoup de mosaïques qui sont faites ici. Et puis aussi de la céramique, de la terre cuite. On fait des sculptures en grès émaillé. Ça, on le fait en partenariat avec la poterie de Lucante, qui est pas très loin d'ici, hein, c'est à 7 km d'ici. Et donc, les jeunes, ils réalisent des pièces qui vont cuire là-bas et qui réassemblent dans la construction insolite. Donc ça, c'est pour la partie ado. Et puis après, il y a la partie adulte. Donc on fait des stages pour adultes. Les adultes peuvent venir participer à la construction, soit pour un week-end, soit pour une semaine, sur 2 semaines. Et pareil, ils peuvent choisir, suivant le programme, soit de faire un... De la forge, de la construction, des choses comme ça. Et en plus de ça, il y a aussi des groupes qui viennent en dehors du programme qu'on organise nous. De plus en plus, il y a des groupes, soit des groupes des écoles, mais aussi des groupes d'adultes, des clubs, des clubs de retraités, des toutes sortes de groupes qui nous disent « on vient en groupe à 10 ou à 20 personnes et on aimerait participer à ça ». Et là, à ce moment-là, on leur propose quelque chose à la carte, un peu, un programme, et ce qui leur permet de participer. Donc, se côtoient toutes sortes de choses. Il y a des choses, comme je disais, faites par des enfants, faites par des adultes. Il y a des choses faites par des artistes qui passent par là. Des choses qui sont faites par des gens qui ne sont pas du tout artistes, qui n'ont jamais vraiment fait quelque chose avec leurs mains. Donc, c'est un ensemble complètement hétéroclite, avec une unité de matière, de matériaux employés, mais pas du tout une unité de style ou de motif.
Toi, dans tout ça, quel que c'est ton rôle, Paul ?
Ben moi, je suis, on va dire, un peu le... Je gère toutes les activités de l'association. Je suis devenu un peu le directeur de l'association. Je suis le seul employé permanent à l'année. Après, on emploie d'autres gens sur des projets précis. Et donc, je travaille sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Il y a tout un volet... organisation générale de l'association, administrative, choses comme ça. Et puis après, s'occuper des projets eux-mêmes. Donc, au départ, depuis le début, je m'occupe beaucoup des expositions. Donc ça, je l'ai gardé, puisque j'étais longtemps bénévole avant d'être employé. Cette partie exposition a pris beaucoup d'importance ces dernières années. On est invité un peu partout en France à organiser des expositions. Et je me retrouve à m'occuper de certains artistes, à les représenter, un peu comme un agent... à essayer de les montrer ailleurs, en France et à l'étranger. Donc ça, c'est un travail qui ne se voit pas trop à Saint-Sever, mais qui représente une bonne partie de mon travail, quoi, sur les routes, installer des expositions, aller faire des salons d'art aussi, un peu partout. Et puis après, tout le reste, c'est-à-dire que sur les stages, les séjours, je m'occupe des inscriptions, de aussi recruter les équipes. Et puis après, il y a tout un autre volet de l'association dont on n'a pas parlé encore, qui est le volet de l'animation locale, l'animation du village.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est donc c'est une association qui est ancrée dans son territoire et dans le lieu, le village où elle est.
Oui, ça fait partie du projet à la base. L'association s'est créée, donc évidemment bien avant que j'arrive, avec une rencontre entre des gens du village, originaires du village depuis plusieurs générations, qui voyaient le village un peu mourir dans les années 80. Il y avait presque plus d'enfants dans le village, il y avait beaucoup de maisons en ruine. Et puis une famille qui est venue s'installer là. Et cette rencontre a donné des idées, se dire comment on va faire des choses dans le village. Et l'idée que les activités culturelles seraient un bon facteur de développement local. Donc ça a été ça au départ, avec l'idée aussi de travailler avec... d'organiser des séjours, des colonies de vacances, des choses comme ça, qu'il y ait des enfants qui viennent au village. Et c'est resté, cet esprit est toujours resté, c'est-à-dire que ça a toujours été un mélange entre des gens d'ici et des gens d'ailleurs, qui viennent d'un peu partout. Et donc un bon mélange culturel et des idées assez différentes. Et l'association a toujours gardé un volet d'animation locale très présent. Donc toute l'année, on organise par exemple des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes. Donc ça peut être de l'art plastique, il y a des ateliers théâtre aussi. On a un groupe de musique, une fanfare qu'on a créée dans le village qui est importante aussi. On a proposé à des gens qui voulaient de jouer de la musique, de se mettre à un instrument. Certains n'avaient jamais fait de musique avant, ils se sont mis à faire de la musique. Il y a tout un programme aussi de spectacles, de faire venir des concerts ici, des spectacles. Et quelque chose qui fait que les gens ici font des choses ensemble. Donc il y a un bon lien social. Et il n'y a pas tellement de clivage de génération. Il y a des personnes âgées, des enfants. Beaucoup de gens du village sont adhérents de l'association et participent aux activités. Ça permet aussi une indépendance, hein, puisque comme on est pas mal autofinancé, on est un petit peu tranquille, quoi. On n'est pas obligé de suivre certaines lignes budgétaires de financement public. Des fois, on a envie de faire des choses, on sait très bien que ça ne va pas être rentable, mais ça nous plaît, on le fait, quoi. Voilà, ça se passe comme ça.
Dernière question, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, maintenir l'existant ou développer encore plus, devenir multinational? C'est quoi l'avenir des nouveaux troubadours?
Notre défaut, c'est qu'on a toujours beaucoup envie de faire beaucoup de choses, et des fois, il faut qu'on se freine parce que c'est... si on fait trop de choses, on les fait pas très bien. Donc voilà, on est un peu dans cette problématique-là des fois. L'association, il y a une dizaine de membres actifs, hein, qui sont bénévoles et qui se réunissent régulièrement. Et certains s'occupent d'activités entières. Ça représente beaucoup de temps et d'investissement. Donc ça, je pense que ça restera toujours, tout ce travail-là, puisque ça tient vraiment à cœur de personnes. Et puis il y a du renouvellement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent au village, qui des fois proposent des idées. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, hein. J'imagine des fois, par le passé, il y a des gens qui ont développé des activités entières dans l'association et qui ne sont pas restés après, qui sont repartis, mais ce n'est pas grave. Par exemple, pendant 5 ans, on a une compagnie de théâtre professionnel sur le village qui a tourné, et puis après, les comédiens sont repartis, ça fait partie de l'histoire. L'association est aussi une pépinière de projets, des fois. Je pense que sur l'avenir, là, ce qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est, j'en ai parlé, c'est l'activité d'exposition et de galeries d'art. Et ça va forcément prendre de l'importance puisqu'on est beaucoup sollicité, on est invité à faire des expos un peu partout. Et l'enjeu, ça va être peut-être de réussir à développer ça tout en gardant toutes les activités qu'on a ici depuis des années. Et ça passera peut-être par, j'espère, un développement au niveau du personnel, d'avoir plus de personnes employées ici, d'avoir des activités qui demandent de plus en plus de travail. Mais bon, la question est toujours de réussir à pouvoir financer des postes tout en finançant les activités.
En 2015, pour les 20 ans du parc, une autre vie s'invente ici.
Portrait d'acteurs du territoire.